Nous avons terminé une série, la série des vacances, sur le livre de Juges. Et nous avons constaté que c'était une époque fabuleuse, incroyable. Une période où on a du mal à croire que ces choses se sont passées. Quand on vous raconte dans la Bible que quelqu'un a tué sa femme et l'a coupé en petits morceaux, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à croire que c'est dans la Bible. Quand on vous raconte que un homme a volé sa maman et qu'ensuite sa maman lui a dit félicitations mon enfant t'as très bien fait etc et qu'ensuite a fait avec l'argent que son fils qui lui a volé lui a retourné a fait une espèce de d'idole de Dieu pour son fils pour que voilà que son fils soit en quelque sorte et puisse avoir une divinité à adorer quand on s'imagine toutes ces choses. Et qu'on est en terre d'Israël, on est dans le pays où Dieu règne, on a du mal à croire à ça. On a du mal à s'imaginer cela. Pourtant, le livre de Juges est un livre tellement riche, parce que tous ces événements parlent de quelque chose, expliquent une situation, mettent en lumière une situation. Et on a du mal à croire que aujourd'hui on peut l'homme d'aujourd'hui peut être aussi idolâtre, aussi adultère que cet homme du temps des juges. On a du mal à le croire. Et pourtant. Ce matin, je voudrais vous proposer la lecture de Jacques au chapitre 4, du verset 1 au verset 12. Mais pendant que le texte se met, je vais d'abord commencer par invoquer le Seigneur. Donc on va prier d'abord. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre à toi encore une fois de plus et te demander que ta parole nous éclaire et nous aide à vivre notre vie pour toi et à être dans ce temps-ci des personnes qui marchons à contre-courant, qui vivons une vie où ton témoignage est réel et édifiant pour non seulement les chrétiens, mais aussi pour les autres personnes autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être encore visité par ta parole et donne-nous de laisser imprégner la parole dans nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous conduise, qu'elle soit là pour notre vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ah ! Adultère, juge, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter parmi nous, en nous. Il accorde au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ? Je voulais prendre ce texte ce matin, un peu pour terminer en quelque sorte d'une manière concrète la lecture du livre de Juges, pour qu'on ne pense pas que ce qui se passe dans le livre de Juges n'est qu'un fait qui s'est passé à cette époque-là, et que depuis l'homme s'est tellement bien civilisé, qu'il est tellement devenu bien, que ça c'est des mauvais souvenirs qui n'existent plus aujourd'hui. Bien sûr, nous ne tuons plus les gens, hein, nous les envoyons pas comme ça dans les différentes tribus, bien sûr on ne fait plus ces choses-là. Mais la réalité du combat avec la chair est toujours présente dans nos vies. Ce chapitre 4 prolonge un peu les préoccupations de Jacques dans son livre ici. Ça prolonge cette préoccupation autour de la sagesse. Au chapitre 3, avant le chapitre 4 ici, il vient de parler de la sagesse. Il a évoqué deux sortes de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. Il dit que c'est une sagesse qui est conciliante, qui est pacifique, qui produit des fruits de justice, etc. Et puis, il y a cette autre sagesse, qui est la sagesse d'en bas, la sagesse terrestre, et il dit que cette sagesse-là, elle est source de beaucoup de problèmes, des conflits, elle est démoniaque. À travers cette préoccupation de la sagesse, Jacques va aussi mettre en exergue deux manières de pouvoir vivre sa vie chrétienne. Certains, sans y faire attention, vivent une vie chrétienne d'une manière charnelle. D'autres vivent leur vie en allant dans une dimension plus spirituelle. Chrétien charnel, chrétien spirituel. Ce chapitre 4, donc, évoque la situation de celui qui est sage charnellement. Est-ce que aujourd'hui y a-t-il des bagarres dans nos églises? Y a-t-il des querelles entre les chrétiens? Y a-t-il des tensions entre les gens? La réponse est oui. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des tas de problèmes. Beaucoup d'églises se divisent, se déchirent. J'ai vu une vidéo avec deux pasteurs qui se bagarraient dans une église parce que l'un ne devait pas être là pendant que l'autre est arrivé et que voilà, t'as pas le droit d'être là. Et puis, nettoie. Et les membres étaient là, tout dépités, en train de se dire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une réalité. Est-ce que la médisance n'existe-t-elle pas dans nos églises? Oui, elle existe. La calomnie, l'orgueil. Donc ce texte nous concerne aussi, quelque part. C'est aussi un texte qui peut nous attirer notre attention et nous dire, attention les gars, attention à la façon dont vous marchez, attention à la façon dont vous êtes entre vous, mais aussi face au Seigneur. Le chrétien charnel est un chrétien qui est habité par l'envie de se battre contre les autres. Et il ne peut pas faire autrement parce que c'est du dedans de lui. Ce sont ses combats internes, au-dedans de lui, ses propres contradictions, au-dedans de lui. C'est ça qui le pousse à être agressif à l'égard des autres. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade. Si je ne me sens pas bien dans mon corps et que vous venez m'embêter, mais vous allez subir ma colère. Oui ou non? Parce que je ne suis pas bien dans mon corps. Comme je ne suis pas bien dans mon corps, que tu as commencé à m'embêter, eh bien je m'énerve un peu plus. Mais si par contre, je suis bien dans mon corps, je suis en paix avec moi-même, que je ne souffre pas, tu viens m'embêter, il y a de fortes chances que je dise, allez, laisse-moi un peu tranquille. Sans que ça tourne à la... C'est la même chose. Un chrétien charnel est en combat avec lui-même. Et à cause de ça, il est en combat avec les autres. Alors peut-être qu'on va clarifier tout doucement comment on peut concevoir cette idée de chrétien charnel, de chrétien spirituel. Est-ce que c'est possible cette idée? C'est quoi cette affaire-là? Mais je me fie au fait que si Jacques peut en parler et s'adresser à une communauté chrétienne en parlant de la sorte, c'est que cela est possible. J'aimerais peut-être, avec ce texte, partager deux choses. Peut-être deux choses sous forme de questions. Première chose, comment fonctionne cette espèce de guerre dont on vient de parler? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait son fonctionnement, son moteur en quelque sorte? Qu'est-ce qui est à la base de ça, quelque part, un peu? Et puis, la deuxième question, le deuxième point, ça sera comment sortir vainqueur, évidemment, de cette guerre-là? Ok? Alors, on va commencer avec le premier point. Comment ça fonctionne? D'où vient que les gens sont en guerre, en pétard les uns contre les autres? D'où vient que les gens sont en guerre avec eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes? D'où vient cela? D'où vient que je ne peux pas être ce chrétien qui est tranquille, mais je suis tout le temps en but avec des combats à l'intérieur de moi qui me rendent nerveux et qui me rendent incapable de pouvoir être en paix avec moi-même et aussi avec les autres? D'où vient cela? Deux choses dans ce texte. Tu peux remettre le texte? Deux choses. Comment ça fonctionne? Première chose, c'est la convoitise qui fait problème. Si ces choses, si je suis en but, en combat avec moi-même, ça cause de la convoitise. Ça, c'est la première chose. C'est quoi la convoitise? Convoiter, c'est désirer quelque chose pour un plaisir égoïste. Souvent, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre parce que il y a des lois morales, parce que il y a des obstacles réels. Par exemple, je convoite la femme de quelqu'un d'autre. Il y a un obstacle moral. Je peux pas faire ça. Je convoite le bien de quelqu'un. Je peux pas. Mais parfois, la convoitise, ça peut être pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre que je veux arracher, mais quelque chose que j'ai trouvé. Une chaussure dans un magasin, un vêtement, quelque chose qui me prend tellement la pensée, tellement la préoccupation que je cherche par tous les moyens à avoir ça. Même s'il faut que je tuerai pour avoir ça. C'est ça la convoitise. Vous voyez dans ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. La convoitise me pousse à avoir envie et à envier les autres, à envier ce que les autres ont, à vouloir ce que les autres ont et à être jaloux de ce qu'ils ont ça. La convoitise, vous savez, dans la Bible, on parle de deux sortes de convoitise. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit « N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde ». Et il dit que dans le monde, il y a trois choses qu'il ne faut vraiment pas du tout aimer. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, le mot le dit, c'est la convoitise où l'on veut, on désire satisfaire, on répond au désir de la chair absolument, sans filtre, sans limite, sans règle, sans morale. Convoitise des yeux, c'est tout ce qui nous tombe dans nos yeux. Dans la Bible, il y a un homme qui avait vraiment péché par la convoitise des yeux, c'est le roi David. Il était sur son balcon et il a vu une belle femme de l'autre côté. Ses yeux ont vu une belle femme de l'autre côté. Et il n'en a plus dormi jusqu'au jour où il a eu cette femme. Mais parce que c'était tellement chouette d'avoir cette femme, et que elle était mariée, malheureusement, qu'est-ce qu'il fallait faire de plus simple? Faire mourir son mari. Comme ça, plus de mari. Femme libre. Donc je l'épouse. Le pauvre Uri, le notre mari, il en est mort. Au combat. La convoitise, c'est ça. La convoitise des yeux. Et c'est pour ça que je pense, sans avoir consulté plus loin, je pense que quand Jacques dit « vous êtes meurtrier », je pense que avec la convoitise, il pense à cet événement avec le roi David. C'est ça qui fait que on rentre alors en compétition, négative avec les autres, qu'on rentre en guerre contre les autres. Et malheureusement, on ne peut pas posséder ce qu'on convoite. Parce que la convoitise, c'est quelque chose qui nous pousse toujours beaucoup plus loin. Si on n'a pas la maîtrise de ces choses-là, on ne sait pas en jouir. Et Jacques d'ajouter quelque chose, on ne possède pas parce que on ne demande pas à Dieu. Alors ce matin, avant de passer à ce deuxième élément sur comment fonctionne un peu cette guerre-là, peut-être ce matin, juste une petite question, est-ce que vous croyez que ça vous concerne? Peut-être que je suis en train de raconter des trucs ici qui ne vous regardent pas. Mais nous devons tous, sans exception, faire attention à la convoitise. C'est un mal insidieux. C'est un mal qui apparaît sans se faire dire « Coucou, c'est moi la convoitise hein? !» Tu fais qu'à faire parce que c'est moi maintenant. Non, il ne dit pas ça. Hein? La convoitise, il se pointe insidieusement. Cette chaussure que je veux. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Je vais aller mentir. Mentir. Je vais trouver un truc, c'est pas très réglo, c'est pas très honnête, mais je veux ces chaussures-là. Enfin, je vise les femmes, hein. Parce que les hommes, en général, ils n'en ont rien à cirer des chaussures. Ah tiens, cirer, on n'en a rien. Mais les hommes, ce serait peut-être, je ne sais pas moi, cette voiture, cet ordinateur, je ne sais pas moi, des trucs de ce genre-là. Faisons attention à la convoitise. La convoitise est très dangereuse parce qu'on ne sait pas la frontière entre le fait de désirer d'une manière normale une chose et de la désirer d'une manière comme c'était une vraie convoitise. La frontière est tellement, tellement serrée. En fait, la frontière, c'est quand je désire quelque chose, je ne l'ai pas, c'est pas pour ça que je n'endors pas. C'est pas pour ça que ma vie cesse. C'est pas pour ça que je suis prêt à tuer, à voler, etc. Je ne l'ai pas, je le désire, ben voilà. Moi, j'aime bien les voitures Mercedes. Mais peut-être que je mourrai sans avoir eu une Mercedes. Et je m'en fous. Mais si j'ai une Mercedes, mais si j'en ai pas, je m'en fous. C'est pas ça qui m'empêche de dormir. Et c'est pas ça qui m'empêche. Ah ben oui, tiens, mon frère, il a une Mercedes. Mais je n'en vis pas. Je n'en vis pas. Je suis content que ça Mercedes. Je suis content qu'il ait ça. C'est chouette qu'il ait ça. Et puis, de temps en temps, il va t'expliquer un peu les trucs qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne. Je dis, waouh, chouette. Mais ça s'arrête là. J'en meurs pas, et je vais pas le tuer pour sa Mercedes quand même. Je vais pas détester sa femme parce qu'elle va au boulot avec sa Mercedes quand même. Non! Non! Là, il y a une frontière entre la convoitise et un simple désir. Pourquoi est-ce que la convoitise est dangereuse? Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La conséquence de la convoitise, c'est que elle nous pousse dans la prière à demander de la mauvaise manière, à demander pour satisfaire notre désir, notre plaisir égoïste. La convoitise, donc, altère notre prière, notre manière de prier, notre vie de prière. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce que quelque part, ça casse la relation entre nous et Dieu. Ça empêche que nous puissions avoir une vie de prière dans une vraie intimité avec Dieu. Parce que la prière, mes amis, la prière, c'est d'abord et avant tout un moment d'intimité avec Dieu. Mais l'objet de la prière, c'est Dieu lui-même. C'est pas nous. N'est-ce pas? Nous ne prions pas pour que Dieu nous donne des choses. Enfin oui, beaucoup prient comme ça. C'est vrai, moi aussi de temps en temps. Mais le but de la prière, ce n'est pas ce que nous obtenons de Dieu. Le but de la prière, c'est de rentrer dans l'intimité avec Dieu afin de pouvoir lui donner la gloire. La prière, l'objet, c'est Dieu, c'est pas nous. Mais c'est vrai que parce que Dieu a fait des promesses, parce que Dieu a dit que si vous priez, vous demandez, vous pouvez avoir, alors nous nous fions à ça en disant que Seigneur, nous te demandons, parce que c'est toi qui demandes que nous te demandons. Mais ce n'est pas l'objet principal de la prière. C'est pour ça que si Dieu ne m'exauce pas dans ma prière, ce n'est pas pour ça que je cesse de prier. S'il ne m'exauce pas, je continue à prier. Parce que le but, ce n'est pas ça, principalement. Deuxième point. Donc, premier mode de fonctionnement qui fait problème avec ça, c'est la convoitise. Deuxième, verset 4, c'est l'adultère. Ici, nous rejoignons le livre des Juges. Si le chrétien demande de manière à nourrir le désir de sa chair, c'est parce qu'il n'a pas compris ou saisi la place de Dieu dans sa vie. L'être humain est naturellement idolâtre. C'est quelque chose de naturel chez tout être humain d'être idolâtre. Idolâtre, ça veut dire de prendre autre chose comme Dieu à la place de Dieu, en quelque sorte. D'adorer, en quelque sorte, quelque chose d'autre que Dieu lui-même. L'être humain est naturellement idolâtre à cause de la nature pécheresse qui nous a habités. L'humain a tendance donc à développer cette idolâtrie et donc il doit veiller chaque fois à se dépouiller de cette tendance à prendre autre chose pour Dieu. On doit faire ce travail d'une manière permanente, chacun de nous. Est-ce que ma vie a-t-elle plus d'importance que Dieu? Est-ce que mon argent est-il plus important que Dieu? Est-ce que ce monde dans lequel je vis est-il plus important que Dieu? Nous devons en permanence veiller à ça et manifester par notre comportement que Dieu d'abord est le plus important. C'est Dieu d'abord qui est notre Dieu et pas autre chose. Si nous avons tendance à prendre autre chose à la place de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On devient adultère. C'est-à-dire, on trompe Dieu avec un autre Dieu. C'est ça l'adultère, n'est-ce pas? Être adultère, c'est tromper son conjoint, avec lequel on est légalement marié. Je ne dis pas quand deux gamins qui ne sont pas mariés vont faire le tour ailleurs. Je ne sais pas si on va appeler ça adultère. Mais il faut qu'il soit adultère, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un contrat. Il faut une relation qu'on appelle une relation d'alliance. Si c'est une bête relation de consommation et que les gens vont aller faire leurs bêtises à gauche, à droite, mais s'il y a une alliance, le mariage c'est ça aussi. Le mariage introduit les mariés dans une relation d'alliance. S'il y a un contrat, un lien, une obligation, des devoirs mutuels, à ce moment-là, le fait d'aller voir ailleurs, c'est être adultère. Et c'est condamnable. Déjà, les lois de notre monde condamnent l'attitude adultère. Déjà, les lois de notre monde, les lois civiles, condamnent déjà cela. À plus forte raison, Dieu. Si donc on met quelque chose d'autre à la place de Dieu, eh bien nous devenons adultères. Nous trompons Dieu avec cette autre chose qui a été prise comme Dieu. Et ce Dieu-là, ici dans ce texte, c'est le monde. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire le système organisé de notre société. Notre société fonctionne comme un système organisé avec des lois, avec des codes de conduite avec des conceptions, une façon de réfléchir, de voir les choses. Un exemple, je viens de le donner. Dans la foi chrétienne, la seule union valable entre un homme et une femme, c'est le mariage. Dans le monde, il y a plusieurs formes d'union qui sont, aux yeux de la loi, valables. Je peux vivre en union libre et aller à la commune et passer des papiers pour dire, écoutez, nous sommes ensemble, nous habitons ensemble, etc. Maintenant, ils ont créé la dernière trouvaille, ça a été quoi? Ça a été le truc avec... j'ai oublié. Mais c'est le truc avec la... On cohabite, alors, la cohabitation légale. Comment? Comment tu dis? Accès, voilà. Donc la cohabitation légale. Tout ça, c'est des choses que le monde prévoit, mais qui sont totalement en opposition avec la pensée de Dieu. Le monde est un système donc organisé dans lequel nous vivons. Et aimer le monde autant qu'on aime Dieu, c'est être adultère. Suivre passionnément les pensions du monde au point de mettre à égalité ce que Dieu nous demande et ce que le monde nous demande, c'est d'être adultère. Et être adultère est intolérable. Pourquoi ? Parce qu'on se place en position d'ennemi de Dieu. Je ne sais pas, moi, parfois, je me pose la question. Est-ce que les mots que nous lisons dans la Bible ont-elles un retour réel ou bien c'est juste des mots, c'est juste de la littérature, c'est juste comme une belle histoire qu'on nous raconte? Vous imaginez devenir ennemi de Dieu? Vous avez déjà vu ce que Dieu fait avec ses ennemis? Vous avez vu dans la Bible comment Dieu traite ses ennemis? Mais pour rien au monde, je chercherais être l'ennemi de Dieu. Pour rien au monde. Dieu est tellement juste. David, le roi, il commet une erreur. Il fait le dénombrement de son peuple. Parce qu'il veut recruter une armée. Dieu a interdit qu'il le fasse. Vous savez ce que Dieu fait? Il dit, choisis. Je vais te sanctionner, toi, David. Je vais te sanctionner, choisis deux choses. Soit une peste qui gagne tout ton pays, c'est la choléra, c'est la punition, ou une autre armée qui vient t'assiéger. Vous imaginez, David est du côté de Dieu, mais il a commis une erreur, et Dieu le sanctionne de cette façon-là. À combien plus forte raison Dieu punit ses ennemis? Être ennemi de Dieu à cause de l'adultère. Que le Seigneur nous aide à réfléchir parfois à la profondeur de certains mots que la Bible dit. Deuxième chose intolérable, c'est que nous suscitons la jalousie de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est jaloux de l'esprit qui est en nous, son esprit qui est en nous. Alors, quel genre de chrétien je suis? Est-ce que tout ça, ça me concerne personnellement? Si oui, peut-être qu'il y a des choses à changer. Sinon, peut-être c'est un avertissement avec lequel il faut prendre au sérieux, un peu mettre ça dans sa tête en se disant, ah, attention, je ne dois pas me trouver sous ce chemin-là. Comment sortir de cette guerre? Je vais être plus bref parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a déjà parlé. Je ne vais pas être plus long avec ça. Comment sortir de cette guerre? Ce texte, à partir du verset 5, il le dit, Dieu a mis un dispositif qui nous aide à sortir de cette guerre. Quel est ce dispositif? Le verset 6, pardon. Dieu accorde sa grâce. Il donne une grâce aux gens. Quelle est cette grâce? Eh bien, de s'approcher de lui. Et la condition, c'est quoi? C'est d'être humble. Lorsque nous sommes humbles, alors Dieu nous accorde la grâce de s'approcher de lui et de travailler avec nous. Dieu est disposé. Il faudrait donc que, si je veux vaincre les ennemis qui sont à l'intérieur de moi à travers la convoitise et à travers cette tendance à être adultère, il faudrait que j'apprenne l'humilité. L'humilité devant Dieu. Pas l'humilité tout court. Hein. Je ne vais pas être un gentil qui reçoit des baffes et qui accepte toutes les baffes du monde parce que je suis humble. Hein. Ce n'est pas que l'humilité dans le sens de se laisser écraser. Non, c'est l'humilité dans le sens où je suis en face de Dieu, je prends ma place de créature et je donne à Dieu la place de créateur. Je suis prêt à faire ce que Dieu me demande, quoi qu'il m'en coûte. Je suis prêt à marcher comme Dieu me le demande, quoi qu'il en coûte. Ça fera peut-être mal à ma chair, ça fera peut-être mal à mon orgueil, ça fera peut-être mal à ma façon de percevoir les choses, ça sera peut-être la honte autour de moi, mais je marche comme Dieu le demande. Je ne considère personne au-dessus de moi, mais je mets tout le monde, pardon, je ne considère personne en dessous de moi, pardon, mais je considère tout le monde comme aussi valable que moi ou plus valable que moi. L'humilité devant Dieu. Ensuite, verset 7, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. J'aime bien rattacher les deux choses. Se soumettre à Dieu et résister au diable. Parce que pour moi, c'est quoi la soumission? Je le dis souvent pour les mariés. Hein, nous avons des candidats au mariage là-bas qui l'ont déjà entendu. Se soumettre, c'est poser un acte volontaire. C'est volontairement que je dis, je me plie, je me mets sous les ordres de quelqu'un d'autre. J'accepte de faire tout ce que l'autre, que je considère comme mon autorité, me demande de faire. C'est ça la soumission. Les dames, je vais vous rassurer tout de suite. La soumission ne concerne pas que les femmes par rapport à leur mari. La soumission est une règle spirituelle de Dieu pour tous les croyants. Vous voulez une preuve? Éphésiens chapitre 5, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. La soumission est une règle spirituelle. Je dois apprendre à ne pas toujours être sous le contrôle et à dominer sur les autres. C'est le diable qui aime dominer. Tout ce qui concerne la domination concerne le diable. Le croyant est appelé à être soumis. Soumis d'abord à Dieu, soumis aux autorités, toutes sortes d'autorités, soumis aux aléas de la vie que Dieu lui impose, soumis aux circonstances de la vie. On ne doit pas rejeter ce qui se passe dans ma vie parce que pourquoi tu me permets ceci? Non! Je montre ma soumission en disant, Seigneur, bon ben, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, gloire à toi. Merci Seigneur. Je me plie. Soumettez-vous à Dieu. Quand j'apprends à me soumettre à Dieu, ça veut dire que si je convoite quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis soumis à Dieu, je dis, ouh, c'est pas ce que Dieu veut, je le fais pas. Parce que je me soumets à Dieu volontairement. Je choisis de lui obéir volontairement. Je ne pourrais pas être idolâtre. Parce que j'ai pas le temps d'aller me tromper avec une autre divinité. Il n'y a pas de divinité dans ma vie à ce moment-là. Il n'y a que Dieu devant lequel je suis à genoux. Point barre. Troisième chose. Donc, l'humilité, la soumission. Oui, je disais à propos de la soumission que je le mets en rapport avec la résistance au diable. Pourquoi? Parce que si je suis soumis à Dieu, j'ai pas le temps de voir le diable avec ses manœuvres. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez une scène, ça c'est quelque chose qui a été raconté, un gars qui voit le diable entrer dans la salle d'une église, et le gars dit, mais toi tu es le diable. Il dit, oui, tout à fait, mais tu viens faire quoi ici? Vous m'attaquez tout le temps, et moi aussi je viens vous surveiller, je viens aussi voir ce que vous faites contre moi. Bon. Et puis, il s'assoit, et puis les gens chantent, dansent, crient, sautent, enfin, bref, on prêche. Mais le diable a les bras croisés, il ne fait rien, lui. Le gars, il passe son temps à surveiller le diable. Il surveille tellement le diable qu'à la fin du culte, il dit, mais je t'ai vu rien faire. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Le diable, moi, j'ai fait quelque chose de très, très bien aujourd'hui. J'ai perdu une âme. Toi, tu as passé tout ton temps à me regarder. Tu n'as rien écouté. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas participé au culte. Tu n'as pas adoré ton Dieu. Voilà. J'ai fait mon boulot. Si on passe son temps à regarder au diable, bien sûr, on est perdu. Mais si on est soumis à Dieu et qu'on est concentré à faire la volonté de Dieu, qu'on marche dans les voies de Dieu, dire non au diable, ça devient facile. Parce qu'on est concentré avec Dieu. On n'a plus le temps avec lui. Et cette résistance entraînera qu'il en aura marre de nous. Essayez de parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Vous faites quoi à la fin? Vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Faites quoi, vous vous en allez, hein? Vous êtes mal, je ne parle plus encore. C'est ça! C'est ça, en fait. Résister au diable et il fuira loin de vous. S'approcher de Dieu. Quatrième chose, s'approcher de Dieu. Je vais pas trop commenter là-dessus, sur le fait de s'approcher de Dieu, parce que c'est toute une réalité spirituelle auquel peut-être nous n'avons pas l'habitude. Voyez cette partie-là, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Tout ce paquet-là concerne ce qu'on appelle le jeûne dans l'Ancien Testament. La manière dont les Juifs jeûnaient pour manifester leur regret, leur repentir, leur regret de leur péché, et aussi pour redéployer le retour vers Dieu. Vous voyez ? Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que c'est toute une prédication, rien que cette partie-là. Mais j'aimerais que, toutefois, ça soit une démarche aussi dans nos vies. Apprendre à reconnaître notre misère. Mes frères, un des points qui fait défaut dans nos vies, c'est que nous n'acceptons pas nos torts. Apprenons à accepter nos torts. Apprenons à accepter nos misères. Apprenons à dire que ça, c'est le péché, et je le regrette sincèrement. Et ce n'est pas bien ce que j'ai fait là. Apprenons à le dire. Apprenons à le reconnaître. Et apprenons à dire, je vais changer réellement. Pas, ouais, je vais changer quand j'aurai le temps. Non, je vais changer vraiment dès maintenant. Dès maintenant. Dernière chose. Au verset 11. Rejeter la médisance. Les autres éléments concernent mon rapport avec moi-même. Et ça concerne mon rapport avec les autres. Ça aussi, la médisance, on n'en parle pas beaucoup dans nos églises, mais il faudrait en parler. Parce que c'est quelque chose qui nous détruit insidieusement. La médisance, comme le livre des Proverbes le dit, c'est comme une friandise. C'est un bonbon. On le met dans la bouche, il est très bon, on mange, et on en prend encore, et on en prend encore. Le seul problème avec les bonbons, c'est quoi? Les dentistes. C'est quoi le problème avec les bonbons quand on en mange? On fait des caries, hein? Des caries dentaires, on voit tous les dents commencer à tomber les unes des autres. La médisance, c'est quelque chose qui nous détruit de l'intérieur, sans en avoir l'air. Ici, il nous est fait observer que l'un des dangers de la médisance, c'est quoi? C'est que je porte un jugement sur quelqu'un d'autre, qui n'est ni ma créature, ni ma chose. Qui est une créature de Dieu. Je porte un jugement sur un autre alors que j'en ai pas le droit. Parce qu'un seul a le droit de juger. Parce que c'est le seul qui fait les lois. C'est Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas regarder, à ne pas être médisant. Je dis bien, je répète, c'est quelque chose qui est naturel chez l'humain. On a tendance à être médisant, mais que le Seigneur nous aide à dominer sur notre médisance. Je vais terminer. Nous avons parlé de ce qui fait que la guerre existe entre les croyants, entre les chrétiens, entre les frères, les disputes, les querelles. Nous avons vu que cette propension à avoir cette guerre-là est due à la convoitise et aussi à notre tendance d'être adultère. Mais nous avons vu que pour pouvoir mettre fin à ça, il faut opérer un véritable retour vers Dieu, en toute humilité, se repentir, se sanctifier, rechercher la face de Dieu. Autrement dit, être spirituel. Le chrétien charnel, c'est celui qui vit sa vie en se disant, bon, je ne réfléchis pas beaucoup, je ne réfléchis pas par rapport à comment le monde fonctionne, est-ce qu'il y a une différence entre moi et le monde? Non, il vit sa vie. Il a ses opinions sur tout ce qu'il entend à la radio. Ah, on parle des homosexuels. Ah oui, les homosexuels. Ah oui. Et il donne des opinions comme ça. Il ne réfléchit pas à l'euthanasie, l'avortement, toutes ces questions. C'est pas grave. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas grave. Il a des envies, il économise, il vit la vie de ce monde, mais sans cette réflexion. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu est-il avec moi dans tout ce que je fais ici? Le chrétien spirituel, c'est celui qui n'a en face de lui qu'un seul interlocuteur, interface, Dieu. C'est celui qui regarde à Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est celui qui construit sa vie sur le modèle de Dieu. Celui qui s'inquiète de sa relation avec Dieu et de comment répercuter cette relation aux autres autour de lui. Alors, que ce matin, le Seigneur nous aide à prendre la posture des chrétiens spirituels. Et ça sera la route qui va nous barrer le chemin vers toutes sortes de guerres, toutes sortes de combats en nous-mêmes, mais aussi à l'égard des autres. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Peut-être que moi, en tant qu'être humain, je l'ai donnée avec mes petites connaissances, avec ma petite sensibilité, avec tout ce que je suis, ce que j'ai, etc. Seigneur, je te prie que ta parole reste ta parole. Et que même si l'humain la donne d'une certaine façon, Seigneur, que toi, tu enseignes, impactes, transformes, bouleverses les vies avec ta parole. Complète ce qui doit être complété. Retranche ce qui doit être retranché. Mais que ta parole soit celle que toi, tu as voulu communiquer et qu'elle influence nos vies. La mienne et celle de tous mes frères et toutes mes sœurs. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.